après les paroles du père Samuel que vous avez entendu ce matin, j'aimerais bien un peu aborder des questions. Bon, le frère a abordé la partie de la vie de foi et du mariage. Je pense que vous avez dit des choses assez passionnantes. C'est important parce qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va mettre comme thème? Comme thème parce que, bon, ben, juste pour vous dire qu'il y a deux week-ends jeunes mariés par an. Un week-end fondamental, c'est toujours la même chose chaque année. Donc, qui est en avril, 13-14 avril. Et un week-end qu'on appelle approfondissement, entre guillemets, qui change, dont le thème change chaque année. Et donc, bon, c'est l'année de la foi, vous le savez, pour ceux qui sont peut-être plus impliqués dans la vie de l'Église. C'est l'année de la foi. Et puis aussi, du coup, ce thème est ayez foi dans votre couple. Parce que c'est vrai que comme accompagnateur de couple, accompagnateur de préparation, accompagnateur dans les préparations au mariage aussi, etc., mais je crois qu'il y a un moment donné à faire un acte de foi dans son propre choix, dans le couple, non seulement la foi en Dieu, mais aussi la foi vraiment en l'autre. Et je crois que c'est quelque chose qui est à retravailler, qui est toujours à approfondir. Et du coup, j'ai appelé... si vous avez parlé un peu avec le frère Samuel de la question de la foi ce matin, c'est plutôt de la question du doute dont j'aimerais parler cet après-midi. Et le thème, c'est le couple de points du rêve à la réalité. Et donc, du coup, voilà, et d'aborder un certain nombre de choses qui peuvent peut-être vous poser difficulté. Et demain, pour rebondir dans l'espérance et l'action de grâce et la louange, bien voilà, comment avancer dans la foi et un peu quelques clés pour vous aider à dépasser quelques épreuves que vous pouvez surmonter, que vous ayez beaucoup de vie matrimoniale ensemble ou peu. Mais bon, peu importe, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit ce matin, je trouve les premières années de vie matrimoniale, de vie ensemble, surtout si, bon, certains d'entre eux peut-être ont vécu en couple avant le mariage, d'autres, que quand même la majorité de ceux qui se marient aujourd'hui, d'autres ont commencé leur vie le couple ensemble avec le mariage, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours un travail intérieur, il y a toujours un combat spirituel, je trouve. De fait, je me suis dit, en quoi nous sommes-nous légitimes comme frères pour vous parler? Mais je crois que nous sommes légitimes dans le sens où nous aussi nous avons une vie commune. Bien sûr, très différent de la vie matrimoniale. Il y a pas la, voilà. Non seulement on se choisit pas entre frères, mais en plus, bon, la différence homme-femme, et puis ensuite l'accueil des enfants. Bon, c'est un style de vie très différent. Mais il n'empêche, et ça, je suis quand même très marqué du parallèle entre nos vies à nous et vos vies à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un vrai, comment on peut dire, oui. Une dimension qui fait qu'on peut parler avec quelque part, et quand vous nous parlez, on vous comprend. Oui, c'est... C'est important ça, parce que justement, ça permet de découvrir que dans la vie consacrée qu'on fait aujourd'hui, eh bien, il y a une source aussi pour vous. C'est pas seulement... pour l'Église ou pour les personnes qui se consacrent elles-mêmes, mais il y a aussi une source pour vous. Et je pense que la vie religieuse de ce point de vue-là, la vie monastique, la vie religieuse, la vie consacrée en général, un peu dans les différentes formes, mais il y a beaucoup de formes, mais je pense que c'est important aussi aujourd'hui, et on a vraiment ce sentiment de vous porter aussi dans la prière, là les frères, bon voilà, on a pris un temps les frères, voilà, savent que vous êtes là, même si vous n'avez pas contact avec tous les frères, mais demain, par exemple, on partagera le repas ensemble, et puis dimanche, avant que vous partiez, il y aura un temps de prière où les frères prieront pour vous, vous confierez des intentions, mais c'est important ce lien, en tout cas, de prendre conscience qu'il y a une... quelque chose que nous avons en commun, non seulement dans l'engagement à vie que nous avons fait, et comme vous l'avez fait, sous le regard du Seigneur, hein, et je pense que la vie matrimoniale n'est pas moins exigeante que la vie religieuse, certainement pas, mais aussi dans le fait de cette vie ensemble, au fond, et je trouve que dans la vie religieuse, il y a une forme on dit dans notre règle pour... comment est-ce qu'on dit ça dans notre règle pour pour quelque part pour montrer aux hommes qu'ils sont capables de vivre, de pouvoir vivre ensemble, nous choisissons, nous, de vivre en vie religieuse. Quelque part, notre témoignage, il va bien au-delà de nous. Vous voyez, c'est un témoignage qui fait que il peut être entendu par des personnes, bien sûr, croyantes, mais aussi par des personnes qui n'ont pas la foi. Et viennent à notre abbaye bon nombre de personnes qui sont en grand questionnement, et je trouve que les questions spirituelles sont... On est quelque part débordé. Je veux dire, on dit oui, la foi, les questions de civilisation, etc. Mais les abbayes sont débordées. Alors, pas débordées de vocation, c'est un petit peu dommage. Mais bon, pour vous les garçons, si j'ai bien compris, c'était un petit peu tard. Mais débordées de demandes. Vraiment de demandes d'accueil, de demandes d'accompagnement. Donc je crois que c'est important de dire, voilà, nous, du lieu où nous parlons, nous avons aussi une légitimité. Nous parlons quelque part avec autorité dans le sens que c'est quelque chose aussi que nous, nous vivons. Hein, le rapport à la famille, le rapport à l'argent, etc., etc. Alors, après cette question-là, c'est qu'est-ce qui fait, on voit des choses très, très, très concrètes, quoi. Qu'est-ce qui fait douter l'amour, au fond? Et en quoi, au fond, il y a besoin d'un acte de foi à un moment donné? Je pense par exemple, la foi, je ne sais pas comment vous en a parlé le Père Samuel, mais je trouve ce qui est très beau dans la foi, ça demande à la fois de l'ombre et de la lumière. C'est-à-dire, ça demande à la fois une certaine clarté et ce en quoi je crois, la foi n'est pas la crédulité, hein, c'est tout à fait différent, ce en quoi je crois a un côté aussi rationnel. Hein, je parle de la foi religieuse, hein, donc la foi en Jésus-Christ, mais à la fois d'ombre dans le sens d'inconnu, de quelque chose qui ne nous est pas totalement révélé, parce que précisément, il n'y aurait pas besoin de foi si nous étions dans la vision, dans le face-à-face, comme après la mort. Là, il n'y a pas, ce que nous dit saint Paul, il n'y a pas besoin de foi, parce que justement, tout nous est révélé. Donc ce clair-obscur, oui, ce clair-obscur que demande la foi. Vous le vivez aussi dans votre couple, hein, comme nous le vivons, nous, dans notre vie religieuse. Mais si vous vous engagez, c'est que vous avez eu quand même la lumière suffisante pour faire le pas que vous avez fait. Sinon, vous ne l'auriez pas fait. Et ça, on verra demain. Je crois que c'est très important de refaire mémoire, parce que peut-être certains sont dans des moments difficiles, d'autres non, parce que bon, vous avez trouvé votre équilibre et ça c'est assez paisible. Mais dans tous les cas, même quand ça va bien, même quand voilà, c'est une source de joie, etc., bah, de refaire mémoire de la lumière qui m'a été donnée pour m'engager. Et de s'appuyer sur cette lumière pour continuer et puis pour approfondir. Donc le doute vient précisément parce qu'il y a une partie d'ombre. Oui, il y a une partie qui est, je veux dire, la partie obscure de la force, hein, comme on dit. Donc il y a quelque chose qui nous échappe et qui ne répond pas complètement ou à nos attentes ou quelque chose qui voilà qu'on voudrait autrement, etc. Et je pense que c'est important de dire qu'au fond, à un moment donné, vous aurez un acte de confiance, parce que foi et confiance, c'est pareil, hein, c'est la même origine, fides fidei, c'est là vraiment, c'est avoir foi, c'est fidélité aussi, c'est la forme de fidélité. Hein, donc, vous aurez vraiment à faire un acte, et puis pas qu'une fois, hein, pas qu'une, cet acte de confiance l'un dans l'autre, qui est fondateur, hein, fondateur pour votre couple évidemment, mais fondateur, bon voilà, certains d'entre vous ont des enfants, bah, fondateur pour votre famille. Hein. La famille s'appuie sur le oui que se sont donné les époux. Hein, c'est ce oui qui rayonne. Hein, qui rayonne dans la famille, mais dans d'autres formes de fécondité, parce qu'il n'y a pas que les enfants, loin de là. Soit parce que bah, c'est difficile d'en avoir, soit parce que, bah, voilà, je pense à des gens qui sont là de l'âge de vos parents ou grands-parents, bah, voilà, c'est plus le. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de fécondité au oui, même quand on est âgé, par exemple. Hein, et je pense que c'est important de se dire ça, de reprendre confiance, mais on sait bien que la confiance, elle est attaquée. On sait bien que la confiance, elle est attaquée et que voilà, et ça va pas de soi parce que on se dit, tiens, on voit des choses dans l'autre et ben voilà, et ça nous demande justement ce clair-obscur, cette ombre et lumière qui nous demande de, bon. Qu'est-ce qui, un peu, peut entraîner les doutes? Parce que qui dit, les tentations par rapport à la foi dit doute. Je dirais premièrement les pertes d'émerveillement. Les pertes d'émerveillement. Et c'est aussi une question que vous pourriez vous poser. Où est-ce que vous en êtes de l'émerveillement de l'un face à l'autre? Il y a eu forcément, à un moment donné de votre rencontre, de votre histoire, un émerveillement face à l'autre. Il y a eu quelque chose qui vous a saisi. Il y a quelque chose qui vous a ébloui. Hein, il y a quelque chose qui vous a attiré dans l'autre, forcément. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et donc, la question c'est que cet émerveillement, il faut qu'il dure. Et c'est là où s'installe parfois le doute. Parce que l'émerveillement n'est pas toujours au rendez-vous. Moi, je prends le cas de ma vie religieuse et de mon appel. Très clairement, il y a des moments quand je suis rentré, à l'âge de 27 ans, dans cette communauté, vraiment des moments au plan affectif, au plan sensible, etc., très fort de l'intimité avec Dieu, et que ce soit à travers la liturgie, que ce soit à travers la vie fraternelle, la vie apostolique, la rencontre avec les jeunes, puisque c'est notre mission de l'évangélisation et la formation spirituelle des jeunes, comme éducateur de la foi, est très fort. Et puis ensuite, vient un moment donné où, voilà, l'émerveillement s'émousse. Il est peut-être plus au rendez-vous, la sensibilité n'est plus là, le côté affectif des choses qui est tout à fait normal dans une vie matrimoniale et dans tout choix, j'allais dire, il y a forcément ça bouge à l'intérieur, c'est plus là. Qu'est-ce que je fais pour continuer au fond? Et ce qui parfois fait entrer le doute, c'est que on confond l'essoufflement, j'allais dire, qui est, même si vous êtes, vous n'avez pas encore 35 ans de vie religieuse, de vie matrimoniale, mais il y a quand même, peut-être vous l'avez senti, qui est, j'allais dire, le lot de tout couple. On confond cet essoufflement avec une remise en doute de sa propre décision. Et ça, je pense qu'il faut que vous soyez attentifs. C'est deux choses qui sont différentes. L'essoufflement arrive, parce que c'est ce qu'on appelle aussi, c'est ce que les spirituels appellent l'acédie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. Là, c'est dit, à privatif. Hein, c'est privé de goût, cette privation de goût. Hein, de goût, que ce soit pour la prière, pour nous, voilà, on peut avoir un combat, voilà, aller à l'office, bon, c'est toujours la même chose, bon, c'est la même heure, etc. Il y a un côté quand même, dans le genre routinier, la vie religieuse, ça se place là. Mais c'est fait pour ça aussi, donc... Puis on le savait en entrant, mais voilà, il y a des moments où c'est difficile à notre nature, vous comprenez? C'est difficile. Et donc, je pense qu'il parfois fait rentrer le doute dans votre couple, c'est ça, c'est de voir que, il y a peut-être une perte de goût, une perte d'éblouissement, une perte d'émerveillement, mais qui ne doit pas être interprétée comme une remise en cause de votre décision. Je crois que ça doit être interprété comme quelque chose d'assez normal dans toute vie humaine. De même que, je ne sais pas, votre vie professionnelle, de même que votre vie, je sais pas, personnelle, etc. À un moment donné, il y a. Donc, demain, on verra un petit peu comment faire pour rebondir, mais ça peut être une source de doute, de où il faut faire un acte de foi par rapport à ça. Deuxième point, les disputes. Bien sûr, nous ne parlons pas des couples ici présents qui sont dans une entente magnifique et à nul autre pareil, mais prenons l'exemple de couples en général. Il peut arriver des disputes. Il peut arriver des disputes, et je pense que ces disputes-là font rentrer aussi un certain doute dans le couple. Parce qu'on se dit, mais si on a du mal à vivre ensemble, si on a, vous voyez, cette difficulté à la vie commune quotidienne, et on s'engueule, on chipote, point oui, point non, et je crois que de ce côté-là, là aussi, je pense que ça fait partie des ajustements qui sont nécessaires. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on se fait l'un à l'autre. Et arrêtons ce mythe un peu surréaliste qu'on nous propose dans que ce soit les journaux, télévision, les revues People ou les trucs de psychologie, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, vous voyez, le coup de foudre, etc. Je pense que tout ça, quelque part, comme si c'était magique. Et à un moment donné, on se dit, le passage du du rêve à la réalité, ben non, mais ben c'est pas vraiment magique. Ben ça, je crois que ça ne l'a jamais été. Et ce serait une erreur de penser que, ça, que votre couple tient un coup de magie. C'est-à-dire comme un truc qui vous échapperait, qui soit extérieur à vous-même, comme voilà. Non, je pense qu'au contraire, de découvrir que dans la vie commune, voilà, ben c'est pas simple. Ce qui demande au fond, et d'où les disputes, et les disputes, mais c'est, les disputes, c'est toujours pour des petites choses. C'est le truc pas rangé, le truc pas lavé, les courses pas faites, les machins, etc. C'est toujours comme ça, les disputes. Nous, en vie communautaire, c'est pareil. C'est pas sur l'existence de la Trinité. C'est rare. Hein. Non, je sais pas si c'est quelque chose, un motif de dispute chez vous. Mais même chez nous, c'est pas une dispute, parce qu'on est tous d'accord, en plus. Donc, voilà. C'est des choses basiques. Mais vous rentrez, je pense, vous êtes rentrés pour les uns et les autres. Vous êtes rentré déjà dans, vous rentrez pour ceux qui arrivent dans la vie matrimoniale, bon, un peu le vif du sujet, quoi. Puis et voilà, dans une longueur aussi de dans un amour au long cours, vous rentrez dans un amour au long cours, et donc du coup, je crois que c'est important de se dire ces disputes, elles sont le signe de quoi? Elles sont pas le signe qu'il faut se séparer, je veux dire, parce que elles sont le signe qu'il y a un travail à faire sur soi-même. Et qu'on n'a pas d'amour sans une conversion personnelle et un travail intérieur. Parce que justement, on se fait l'un à l'autre. Alors c'est un peu abrasif. Hein, vous savez, quand on frotte des pierres avant de les polir, ben, y a un côté abrasif, etc. Il y a un côté parfois difficile qu'il faut se farcir. Mais d'où l'importance de ces temps de dialogue. Et vraiment, je peux que remercier le Seigneur de l'initiative que vous avez prise, de prendre un temps auprès du Seigneur, un temps pour vous. Parce que c'est justement le moment où vous allez réajuster les tempéraments, réajuster les choses, reprendre une vraie dimension de... Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que la dispute, on l'hypertrophie. Et donc du coup, ça devient le problème. Et il n'y a plus rien en dehors de ça. Et ça devient le problème de notre couple. Hein, et ce n'est pas le cas. Et ce qui vous fait perdre de vue, que d'abord l'autre est un don, est un cadeau. Bon, moi, j'insiste beaucoup dans les préparations au mariage, je pose la question, est-ce que vous voyez l'autre comme un cadeau, comme un don? C'est capital. Un don de Dieu. Est-ce que je reçois l'autre de la main de Dieu? Pas forcément, non. Donc, je pense que c'est important, c'est important, ça, parce que du coup, c'est ça qui vous permettra de dépasser le quotidien qui peut être un peu raide par moment. Et j'allais dire, c'est voilà, c'est parce que vous avez vos éducations, même avec des codes sociaux, j'allais dire, qui sont assez semblables, mais c'est pas pour ça que la vie ensemble n'est pas l'objet d'un travail. Je veux dire, au fond, ce qui me coûte dans l'autre, il faut se poser la question, en quoi ça m'invite à un changement intérieur? Moi, les frères avec qui j'ai eu le plus de mal, ce sont ceux qui m'ont fait le plus progresser. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler aussi, de dire, voilà, c'est bien sûr que le frère lui-même a des torts, certainement. C'est pas l'Immaculée Conception, sinon ça se saurait. Donc, moi, le Seigneur, lui, a donné sa vie pour ce frère-là, même si moi, j'ai du mal. Et donc, du coup, je pense que c'est que chacun, dans les disputes, se remette face au Seigneur, d'où l'importance... Je ne sais pas comment ça se passe dans vos couples, mais de la prière ensemble, pour justement mettre une distance, relativiser quelque part ce qui peut faire dans le quotidien le côté un peu âpre et rugueux hein, du quotidien. Parce que la prière, c'est ça, on se remet devant le Seigneur comme des pauvres. Et parce que le mariage, c'est l'union... Oula. Il y a un autre couple qui arrive, non? Non? C'est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint. Le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Rappelez-vous ça. C'est d'abord, je ne sais pas t'aimer. Je ne sais pas t'aimer. Et je demande au Seigneur cette grâce. Et peut-être je ne sais même pas m'aimer moi-même. Et donc la vie commune, forcément, va faire rejaillir ça avec force. Ces difficultés dans l'amour de soi. Donc du coup, je pense que C'est important que vous puissiez reprendre conscience de ça et de l'importance de la prière à deux. C'est marrant parce que autant les couples, je veux dire, partagent une intimité assez grande et radicale, mais autant pour ce qui est de la prière, il y a une forme de pudeur qui fait que beaucoup de couples, je parle de couples engagés dans la foi, je ne parle pas de couples qui ne croient pas, etc., mais de couples, voilà, qui sont assez relativement pratiquants, qui sont, voilà, qui sont dans une démarche spirituelle, etc. Mais comment ces couples, même ces couples-là, le fait de prier ensemble, il y a une pudeur qui fait qu'on n'ose pas. C'est marrant, hein, alors que c'est, je trouve, c'est une forme d'intimité, justement, qu'on peut partager, la prière. Il y a d'autres, vous partagez d'autres intimités. Mais vous partagez toute votre vie et toute votre intimité quelque part. Bon, vous avez un jardin secret, c'est normal, mais beaucoup de votre intimité, vous la partagez avec l'autre. Mais reprenez aussi la prière comme une source, justement parce que face aux disputes, je pense que ça permet de remettre... Et puis aussi, je crois que c'est l'invitation, la dispute, à l'humilité. Ce qui est une grande source de doute, c'est au fond l'orgueil. Ce désir d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, ce désir d'avoir une, au fond, l'ascendant sur l'autre. On voit bien. Le désir d'avoir l'ascendant sur l'autre qui fait que, voilà, ça ne rend pas service et du coup chacun se, alors que l'humilité, qui n'est pas la dévalorisation de soi-même, mais qui est la vérité, c'est la grande Thérèse d'Avila qui dit l'humilité, c'est la vérité. Alors que l'humilité, ça donne justement de dire en quoi j'ai peut-être une demande de pardon à faire, en quoi il y a quelque chose où de s'interroger, ou en quoi l'autre aussi a quelque chose à corriger. Si vous ne savez pas quoi corriger dans votre vie, demandez à votre conjoint et il vous donnera une liste assez impressionnante. Donc, parce que voilà, ça c'est toujours redoutable. C'est comme ça, j'ai un père de famille, c'est là j'accompagne. Il me dit, mon père, c'était hier. Oh, mon père, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de péché. Ah bon? Voilà. C'est quoi le numéro de téléphone de votre femme? Voilà, c'est. Parce que justement, la question de l'orgueil, ce qui est difficile dans l'orgueil, c'est qu'il y a une forme d'aveuglement. Si tu es accro, pas quoi, à Internet, si tu es accro à l'alcool, si tu es accro au jeu, si tu es accro. Ça se voit. On ne peut pas dire que ça ne se voit pas accro, voilà. Mais dans l'orgueil, on ne le voit pas. C'est l'autre qui le voit. Et vous avez cette chance, cette grâce de vivre en couple comme un miroir aussi réfléchissant. Et l'autre me renvoie aussi une image, parfois que je n'aime pas de moi-même, mais bon, qui est la réalité aussi, et qui m'invite aussi à une conversion. Donc c'est un peu important cette question de dispute, etc. Deuxième étape, ensuite, autre point, les comparaisons. Qu'est-ce qui sème le doute, c'est les comparaisons. Alors là, ça c'est pas de Dieu. Les comparaisons qui tuent, vraiment qui démolissent. Comparaisons à plusieurs niveaux. Comparaisons des familles. Comparaisons des niveaux de vie avec vos frères et sœurs s'ils sont déjà mariés ou beaux-frères, belles-sœurs. Ou peut-être c'est d'autres qui font des comparaisons par rapport à vous. Et de ce point de vue-là, je suis très attentif dans la préparation au mariage de comment l'autre a été accueilli dans la famille, dans ma propre famille. Comment mon futur conjoint a été accueilli dans ma propre famille. Et ça, c'est très important. Parce que vous savez bien aussi, on va y revenir tout à l'heure, mais pas mal de sources de souffrance aussi dans les familles, dans vos familles respectives. Ah, mais non, j'aurais voulu ceci ou j'aurais voulu cela. Chaque famille, forcément, projette... Pour son enfant, voilà, il faut, c'est un peu son. Et puis bon, la personne arrive avec un autre style de conjoint que celui désiré par les parents, etc. Les comparaisons. Ou vous-même, vous vous comparez comme couple à d'autres couples. Hein? Et vous dites, ah oui, si on était comme cela, etc. Ils ont été tellement heureux, ils ont été tellement formidables, c'est-à-dire, bon. Hein? Et peut-être ceux-là en question se disent la même chose en vous regardant. Donc, je crois que c'est important de de se dire qu'au fond, il y a quelque chose qui est destructeur dans la comparaison, parce que c'est essayer de voir dans le pré du voisin un bonheur. Hein, le pré du voisin est toujours plus vert. C'est l'inverse du carpe diem. Hein, le carpe diem, hein, c'est cueillir le jour, c'est cette grande devise hein, latine. Un carpe diem, il y a un carpe diem chrétien aussi, vous voyez, c'est cette manière de cueillir aussi dans la journée tout ce qui est source de grâce et de bonheur. Et là, à l'inverse, c'est la comparaison. La comparaison qui n'est pas raison, on le sait bien, mais la comparaison qui sème le doute, qui. Les épreuves. Qu'est-ce qui peut semer le doute aussi? C'est les épreuves. Les épreuves, parce qu'on se dit, épreuves de santé. Épreuves liées à l'argent, les questions liées à l'argent. Je pense qu'il ne faut pas les minorer, parce que c'est quelque chose qui a quelque chose qui est bien omniprésent, c'est les questions matérielles. Et parce que justement, et donc des tensions naissent à l'intérieur du couple dans la manière de dépenser l'argent ou de ne pas en dépenser. Mais en général, le problème, c'est qu'on en dépense. Donc, hier, par exemple, je recevais un monsieur qui, du coup, on en a parlé ensemble, mais père de famille de 8 enfants, engagé dans sa foi, etc. Il est accro aux DVD et aux BD. Mais c'est-à-dire, aux DVD, c'est-à-dire qu'il y en a 1000 chez lui. Quand même, hein. Et plus 2000 BD. Donc, du coup, mais je lui dis, et il me dit, mais c'est un tel plaisir rien que d'acheter, que je ne veux pas forcément de regarder, ce qui est un peu étonnant, mais chacun son truc, mais c'est le fait d'acheter, il me dit, c'est tellement chouette d'acheter, mais c'est tellement. J'ai accueilli, mais c'est. Ça m'a quand même. Non, mais. Et ça. Vous imaginez le prix d'un DVD, hein, 15-20 euros. Multiplié par 1000, et qu'on a 8 enfants, c'est vite fait. Hein, et une cuisine. Une cuisine. Non, mais vous voyez, et ça, je me dis, le rapport à l'argent dit quelque chose de notre rapport aussi à nous-mêmes et aux autres. Le rapport à l'argent n'est pas que matériel. Hein, et donc, les épreuves, vous pouvez avoir des épreuves, parce que ça peut être des épreuves dues au chômage de l'un ou de l'autre. Hein, par exemple, hein. Mais aussi le fait d'avoir trop d'argent, ça peut être aussi une épreuve. Je m'explique. Je pense à un autre couple là que je prépare au mariage, et en fait, il y a quand même une disparité de fortune entre les deux familles. Ce qui fait que lui, par exemple, d'une famille, bon, il n'a jamais manqué de rien, mais la famille d'elle, t'as besoin de quoi que ce soit, allez hop. On te passe le chèque qui va bien. Et lui, dis donc, si j'ai un peu de galérer au début de ma vie matrimoniale et que, comme tout jeune couple qui se bâtit, ils ont 23, 24 ans, donc ils n'ont pas d'épargne, ils débutent. Bon, ben, moi, je n'ai pas envie que tes parents, ils me donnent. Et je n'ai pas envie que soit à chaque fois la poule aux œufs d'or et puis comme un nos limites. Et donc, on en parlait la dernière fois, et ça, c'est important, parce que vous voyez, dans le trop comme dans le pas assez, parce que ça dit aussi peut-être une forme d'imposition d'une famille, c'est peut-être beaucoup dire, mais un rapport au matériel qui est quand même, dans ce cas particulier, quand même très différent selon les familles. Hein, je me rappelle, par exemple, un autre couple, où là, c'était l'inverse, c'était une famille avec la culture de l'économie. C'est-à-dire que tout était négocié. On demandait des remises partout. Et donc, du coup, on négocie tout et tout acheté en gros. Alors, du coup, on n'achète pas un steak à la boucherie, on va acheter avec les voisins, ils vivent à la campagne. On achète une cuisse, un gros cuisseau, etc., qu'on découpe et qu'on met au frigidaire. Comme ça, et on achète plus comme ça. On va faire des économies. Et du coup, à un moment donné, quand je l'écoutais, Lui était à fond comme ça, comme ses parents, c'est normal. Mais elle, pas du tout. Elle n'avait pas de problème, mais elle voulait absolument pas rentrer. Pas quoi, t'invite au restaurant, etc. Vous allez au restaurant, mais rien de pire que le type, il négocie la note alors qu'il t'invite, quoi. Donc, non, je trouve ça, mais je supporterais pas. C'est un truc. trucs. Non, mais vous voyez, mais parce qu'il y avait une mentalité qui fait, on est tout à l'économie, on est tout à la récup, on est tout. Mais ça en est pratiquement de l'obsessionnel, quoi. Vous voyez, ça en est de là. Et donc, c'est intéressant de voir ça, de découvrir que le rapport à l'argent, et donc essayer de revisiter aussi votre rapport à l'argent. Alors, si c'est vous êtes sur le même style, etc., tant mieux. D'autant plus que. Alors, c'est intéressant pour savoir si. On ne peut pas faire peut-être un sondage, mais est-ce que vous avez un compte joint? Est-ce que chacun a gardé son compte et vous mettez... voilà. Est-ce que... Sous quel régime vous vous êtes marié? Tout ça, pour moi, c'est très important. C'est très, très important. C'est les questions de donation. Bah, peut-être que vous êtes d'héritage. Vous êtes encore un peu jeune pour voir ça. Mais quoique, maintenant, les biens passent de plus en plus d'une famille à l'autre. Je me rappelle comme ça d'un couple. 3 mois avant le mariage, elle hérite du château familial. Oui, mais la toiture, c'est un peu comme ça, comme ici. Donc, quand il faut refaire la toiture, c'est pas comme chez vous, quoi. Donc, à moins que vous viviez dans une bâtisse pareille, mais et lui dit, mais qui va entretenir ça? Vous voyez? Qui va faire que et des questions comme ça n'est pas sans rejaillissement sur le couple. Je vous invite à voir tout à l'aune de votre vie de couple. C'est-à-dire, en quoi ça rejaillit? On n'est pas, vous voyez, il y a une transformation dans les wagons SNCF. On est passé des wagons à compartiment aux wagons corail, hein, où on voit, il n'y a pas de compartiment. Et je crois que la vie matrimoniale, c'est beaucoup plus le wagon corail que le wagon à compartiment. Parce qu'on dit, ah ben non, il y a ça. Mais on spontanément, on ne voit pas le lien entre les choses. Or, je pense qu'au contraire, un changement professionnel, une question de santé, un rapport difficile à l'argent, forcément, a des conséquences. C'est forcé. Bon, ça, il ne peut pas en être autrement, à moins que d'être schizophrène complètement. Hein, ce qui aussi a des conséquences, du reste. Mais bon. Bon, juste pour vous inviter, si vous pensez à un déménagement, ben, vous le pensez à deux. Quelles conséquences pour nous deux? Quelles conséquences pour les enfants, si vous en avez? Quelles conséquences pour nos familles, etc., etc. Donc, je pense que les questions d'argent, les questions, les épreuves parfois liées à la fécondité. À la fécondité, j'entends là de façon beaucoup plus stricte la question de l'accueil des enfants. Alors, ça, c'est en trop ou en pas assez, ça vient trop vite, quoi, ça n'arrête pas de venir. Ou alors, ça vient pas. Ou alors, ça vient pas. Et je pense que c'est marrant en France, parce que c'est pas le cas, par exemple, en Allemagne ou dans des pays anglo-saxons, mais en France, alors que malheureusement, il y a un taux d'avortement qui est quand même très, très élevé, il y a comme une pression sur les couples. Au niveau des enfants. Et donc, du coup, soi-même, comme couple, c'est peut-être pas facile, parfois, à vivre. Voilà, ça prend plus de temps, puis on veut pas non plus ouvrir la porte à tout un truc. On voit l'enfant comme un don, pas comme un dû, quoi. Donc, du coup, voilà. Vous avez peut-être choisi aussi de patienter, et puis donc, du coup, je pense que ces questions d'épreuves par rapport à la fécondité, il faut pas les minorer. C'est des vraies épreuves pour un couple. De même aussi l'accueil d'un enfant non désiré, c'est peut-être pas non désiré parce que vous êtes encore jeune, etc. Mais bon, notre cuisinière, par exemple, à 38 ans, ben voilà, elle a accouché il y a 6-8 mois, elle a accouché parce que bon, c'est un enfant qui n'était pas prévu au programme, quoi. Non, mais bon, mais c'est pas sans changement pour le couple. Du coup, pensez aussi par rapport à la vie et l'accueil de la vie. Ça peut être un lieu de faire perdre confiance dans l'autre ou faire perdre confiance dans l'amour que l'on peut avoir, etc. Les épreuves liées à la vie professionnelle. Les épreuves liées à la vie professionnelle, je pense aussi que c'est important parce que justement, ça a des conséquences très directes dans votre couple, mais pensez aussi combien... je pense par exemple des périodes de chômage, qui malheureusement est le sort de beaucoup de personnes dans notre société. Et pratiquement, je ne veux pas dire tout le monde, mais sauf à rares exceptions, passe par la case chômage à un moment donné dans sa vie. Et donc, du coup, c'est aussi une épreuve parce que c'est lié aussi à, surtout quand ça concerne, il faut le dire, l'homme, c'est lié aussi à l'admiration. C'est lié à l'admiration face à l'autre. Et donc, du coup, je vous invite aussi, si vous traversez cette épreuve-là, d'être attentif que ça ne sème pas le doute dans votre relation. Hein? Parce que justement, vous dites, mais au fond, est-ce qu'il se bouge assez? Ou est-ce qu'elle se bouge assez? Parce que du coup, ça veut dire aussi hein, une moins-value en termes de rentrée pour le ménage, pour le couple, de rentrée d'argent, et puis ensuite de vous poser la question. Voilà, il peut y avoir des vraies questions qui se posent à cette occasion-là, qui vous font parfois perdre cœur, quoi. Et d'où l'importance de garder intact cette quelque chose que j'approfondirai demain, mais cette question de l'émerveillement, hein, et de souligner profondément ce qu'il y a de beau dans l'autre. La question, un autre aspect qui peut être aussi compliqué, c'est un aspect lié à la famille. J'en ai dit quelques mots à l'occasion des comparaisons, mais je pense que ça va bien au-delà. C'est que je ne sais pas pour la préparation au mariage que vous avez eue, mais on découvre beaucoup le lien avec la famille, le lien que l'autre a avec sa famille, et peut-être un lien qui est trop prégnant. Hein, je me souviens comme ça de... C'est marrant, c'est surtout les filles, mais ça peut être les garçons aussi, mais c'est le cas que j'ai sur les filles, qui appellent leur maman tous les jours. C'est tous les jours un appel. Tous les jours, ou alors ça peut être des garçons qui appellent aussi leurs parents. Non, mais du coup, c'est le rapport tous les jours. Là où père et mère honorera, etc., et loin de moi l'idée de vous décourager d'avoir un lien proche avec vos parents, mais en même temps, prenez conscience que vous formez un autre couple qu'eux, c'est-à-dire que vous formez une autre famille qu'eux. Et ça, je pense qu'il y a, comme on dit, couper le cordon. Parfois, dans certains couples, c'est pas résolu. Cette question-là du lien avec la famille, et il y a une proximité qui est trop grande, et alors que votre premier confident, c'est votre conjoint, c'est lui, soit elle, la première confidente. Et je pense que ça c'est important à savoir parce que on dit oui, ben alors j'en parle comme ça avec les jeunes, etc. Puis ils me disent mais je leur dis, mais maman, je lui file. Tous les jours, on s'appelle, mais c'est des trucs malades, la vie de tous les jours. Je me suis acheté un truc, j'ai croisé un tel. Bon, voilà, c'est des... Oui, mais peut-être viendra un moment plus difficile dans votre vie de couple, où là, ben voilà, vous... Et la maman, les mamans, ça sent beaucoup de choses. Et donc, du coup, elle s'en rendra compte, et bien, vous n'aurez peut-être pas la force et la retenue suffisante pour pas dire les choses et pour garder les choses en couple. Du coup, moi, ça peut être aussi une épreuve, le lien avec la famille. Et du coup, c'est important de se dire, et donc du coup, de faire perdre foi, de dire, mais au fond, on dit, on n'épouse pas la famille. C'est faux, on épouse aussi la famille, parce que forcément, l'autre vient avec son bagage d'éducation, avec son bagage de frères et de sœurs, et de parents, et de grands-parents, etc. Mais essayez de... Il faudrait... En tout cas, je souhaite quand la famille... Et au contraire, source d'encouragement pour le couple. Comme ça peut l'être aussi, à des moments difficiles. Hein, je me souviens comme ça d'une jeune femme qui disait du mal de son mari. Nous ne parlons pas des jeunes femmes ici présentes qui ne disent que du bien. Mais qui disait du mal de son mari devant sa mère. Et la mère l'a reprise. Elle dit, c'est fini, je ne veux plus entendre une parole sur ton mari. Je ne veux plus entendre une parole. C'est des choses à vous à régler. Et donc, du coup, ce qui me paraît assez juste, et du coup, je trouve que ça a été un encouragement. Et elle-même, ça a été quelque chose d'assez fort, parce que elle pensait, bon, voilà, mais sa propre mère l'a renvoyée, au fond, à sa vie matrimoniale, à sa vie de couple. Elle a dit, mais oui, c'est vrai, on a ça à régler entre nous. On n'a pas s'épanché de ça hein, dans la famille, etc., etc. Ensuite, la question de la vie spirituelle. La question de la vie spirituelle peut aussi être une source, elle est dit, de doute. Je me souviens de cet homme qui me disait « Parfois, j'ai l'impression d'avoir épousé une bonne sœur. » C'est-à-dire qu'elle étant extrêmement tournée vers la partie spirituelle, lui, sympathisant au club, je veux dire, bon, il était... C'était un sympathisant au club, il était venu en retraite ici, donc on ne va pas dire qu'il n'était pas arc-bouté contre la foi, etc. Mais je vais dire, comme un homme, souvent, voilà, les mecs, c'est moins, souvent, ça met moins le curseur dans la vie spirituelle que les filles. Bon, c'est comme ça. Souvent, hein, pas toujours, mais... Et lui, voilà, il n'était pas contre. Mais il était même pour, mais il disait, c'est trop. Et là, je vous invite... Et donc, du coup, il voyait Dieu comme un compétiteur. Alors, forcément... Ça va poser problème parce que là, il tient pas la distance. Quoi. C'est-à-dire, si tu vois Dieu comme compétiteur, si l'autre te présente, tu présentes à l'autre ton conjoint Dieu comme compétiteur, et je crois qu'il y a quelque chose dans la vie de couple qui, là, pour le coup, n'est pas en place. C'est-à-dire que votre rencontre avec le Seigneur, puisque vous faites une démarche de foi à deux durant ce week-end, donc vous en êtes là où vous en êtes au niveau de votre vie de foi. Ça, mais la rencontre avec le Seigneur, se fait à l'intérieur du couple. C'est ce que peut-être vous a parlé Frère Samuel ce matin, cette dimension du sacrement du mariage. C'est que cette présence, il y a quelque chose de sacré dans l'union de l'homme et de la femme. Un sacrement, c'est une présence. Hein, c'est signe visible d'une grâce invisible. C'est un signe, qui vous êtes un signe, et un signe de cette présence de Dieu. Donc faites bien attention que la vie spirituelle n'occupe une place qu'elle n'a pas à occuper ou au fond est mal positionnée, qui fait rentrer l'autre au fond dans un... Forcément, si je vois Dieu comme un compétiteur, je doute de moi. Et puis peut-être je doute de nous. Et puis peut-être je douterai de Dieu aussi à la fin, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de le voir toujours entre nous deux, etc. Et mêlé à toutes les sauces. La vie spirituelle a ça. Et à sa place... Et ça ne se fait pas sans l'autre. Je pense que c'est important. Si vous voyez des disparités dans votre vie de foi et dans les besoins au niveau de votre vie de foi et des disparités qui, bon, entre vous deux, quoi, hein, et puis ou peut-être entre vos familles ou entre, je pense qu'il faut pas s'en alerter. Il faut simplement permettre à chacun de vivre une vie de foi qui répond à la fois à son attente. Mais en même temps, une vie de foi qui s'enracine dans cette réalité du couple. Et ça, je pense que un couple qui serait toujours impliqué dans l'Église, dans la vie de l'Église, etc., etc., moi, ça me pose question. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de fuir, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on soit impliqué, ok, qu'on soit dans, mais trop, quand c'est trop, c'est toutes les soirées, c'est tous les week-ends, c'est machin, c'est les... Alors on se dit, mais quelle est la place pour eux, quoi, au fond, quelle est la place. Donc, la présence de Dieu dans un couple, autant elle est une source d'unification, une source d'action de grâce, une source, hein, avec la prière de couple dont je vous ai parlé, mais autant aussi elle peut devenir une source de doute. Donc, faut être attentif et que vous puissiez relire ça durant ce week-end. Doute qui, là, est plus pervers sur la fidélité de l'autre. Donc c'est un autre point, doute sur la fidélité de l'autre. Ça c'est difficile parce que et je mets ça en lien avec la jalousie. Il y a des personnes qui sont très jalouses. Encore une fois, un couple que j'accompagne, lui est archi jaloux, archi possessif. Alors là, ça m'a complètement fait halluciner. Et il lui dit 10 fois par jour, tu es à moi. Oula, je me suis dit, là, quand j'ai vu ça, j'ai allumé tout de suite la warning et j'ai mis le frein à main parce que là, c'est pas de Dieu, ça, c'est pas. Vous n'êtes pas la propriété de l'autre. C'est-à-dire, ce côté possessif dans le couple n'est pas le signe de l'amour. C'est le signe, au contraire, d'une immaturité. Et donc, je pense que c'est important les questions de jalousie, les questions de. Que vous puissiez de, voilà et de lier aussi à la question de la fidélité de l'autre, mais même si c'est une fille, elle peut parler avec un garçon et un garçon avec une fille. Je veux dire, c'est pas parce que voilà, c'est mais derrière ça, je crois que la vie de couple fait en cette matière-là comme en d'autres fait ressortir des tas de choses. Vous voyez, ça fait ressortir au fond des blessures ou des la jalousie, ça vient souvent de ça, quoi. Ça vient de la blessure, ça vient de la souffrance qu'on a pu avoir, ça vient de... Et donc, du coup, est-ce que moi-même, j'ai assez de confiance dans l'autre pour ne pas être sans cesse en train de lui quémander une sécurité affective? Là aussi, c'est exaspérant. Quand l'autre ne t'a pas dit 10 fois par jour je t'aime à l'autre, il est insatisfait, mais au secours, je veux dire, on ne respire plus, quoi. Donc, vous voyez, mais je pense que il y a des immaturités affectives, et quel que soit l'âge, hein, c'est pas une, mais qui se réveillent à l'intérieur de la vie de couple, qui peuvent être une source de doute. Et donc, du coup, c'est le, comme je vous le disais, si vous repérez ça, ben, posez-vous la question, mais en quoi. Il y a un chemin aussi de croissance pour moi. En quoi je dois grandir? En quoi je dois encore être. Parce que derrière ça, il y a peut-être une peur d'être abandonné, une peur d'être. Un besoin d'être sécurisé, mais de façon excessive, etc., etc. Une autre source de doute à l'intérieur du couple, c'est le perfectionnisme. C'est le perfectionnisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'éducation, parfois dans certaines éducations, hein, le fait de mettre la barre haut. Et du coup, il y a une exigence face à l'autre qui est haute. C'est-à-dire qu'on ne laisse rien passer. Le perfectionnisme, et ça, je pense, c'est quelque chose d'assez. Je ne veux pas dire franco-français, mais c'est vrai, le fait de voir le point noir dans la page blanche. C'est quand même assez franco-français. C'est quand même très où on est tout de suite à voir, ah, tac, 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 ça marche pas, clac, 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 clac. Vous voyez, hein. Contrairement, si moi j'ai vécu aux États-Unis et les Américains, je sais pas, certains d'entre vous ont vécu aux États-Unis, etc. Mais je trouve qu'il y a le signe positif, hein, des Américains. Hein, au contraire, même si tu échoues. C'est super, c'est génial, mais on t'encourage, c'est génial, la prochaine fois tu l'auras, etc., etc. Et vous seriez tous des Noirs américains, ça fait longtemps que vous m'auriez encouragé dans la prédication. Oui, vas-y, on est avec toi, oui, c'est super ce que tu nous dis, etc. Du coup, le prédicateur peut pas en placer une, grosso modo. Et donc, parce que, et alors qu'en France, il y a ces. Quand on est dans une dimension plus, disons, de personnes formées, etc., avec un niveau intellectuel et un bagage intellectuel, on sent cette forme de perfectionnisme qui est un tue-l'amour, qui est vraiment un tue-l'amour. Parce que c'est justement. C'est même pas le signe d'une grande intelligence. C'est même pas le signe d'une grande intelligence. Le signe d'une grande intelligence, c'est au contraire cette capacité d'accueil et de se laisser, comme un intus legere, lire à l'intérieur de l'autre aussi quelque chose qui vient féconder ma vie, hein, comme le réel vient féconder mon intelligence. Et donc, je crois que soyez attentifs et posez-vous la question, est-ce que dans ce perfectionnisme, qui est une manière de regarder, il n'y a pas aussi un découragement de l'autre. Parce qu'à force de lui dire ses défauts, à force de lui dire ceci, ceci, cela, à force d'être peu encourageant, d'être peu reconnaissant pour le travail de l'autre, parce que chacun de vous, vous mettez de l'énergie dans votre couple. Ça, j'en suis intimement persuadé. Mais est-ce qu'il y a la reconnaissance? Est-ce que je vois aussi l'énergie que l'autre met? Parce que ça demande de l'énergie, un couple. Pour que ça marche comme une communauté, ça demande de l'énergie, il faut s'y donner. Et donc, je crois que ça, c'est. D'autant plus le perfectionnisme joue des tours, que il y a comme une mentalité. Quelque part, le couple se met beaucoup de pression. Je trouve que vous vous mettez quelque part trop de pression. Trop de pression parce que justement, faut être au top des émotions, faut être au top de la relation sexuelle, faut être au top de la vie professionnelle. Vous voyez, quelque chose, quelque part, se mettre une pression qui va faire que progressivement, l'un ou l'autre va perdre pied et va se décourager. Et va rentrer dans un doute en disant, mais soit j'ai épousé un nul ou une nulle, bon voilà, c'est vraiment. Vraiment, t'es nul, quoi, parce que voilà, c'est parce que. Et puis, j'allais dire, c'est tellement facile. On est tellement fait de crevettes de bosse. C'est tellement facile de découvrir la fragilité de l'autre, de découvrir le défaut de caractère, surtout que quand vous vivez une vie ensemble, ça ressort à l'évidence. Mais en même temps, justement, vous voulez rentrer dans une dimension de foi Et qui dit dans une dimension de foi, dit aussi une dimension de bienveillance l'un face à l'autre. Et ça, la bienveillance, c'est pas donné, c'est pas acquis. Je veux dire, c'est toujours à retravailler. Et donc, ce perfectionnisme, cette jalousie, qui sont au fond des contrefaçons au fond de la communion, et qui sont d'une certaine manière un désir aussi d'emprise sur l'autre. Vous voyez, c'est un désir de possession, un désir de voilà, je veux que l'autre soit à mon image et à ma ressemblance. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Donc l'autre est la condition de la communion, c'est que l'autre soit autre. L'amour, il n'y a pas d'amour entre clones. C'est pour ça que la première distinction, c'est homme-femme, mais à l'intérieur d'homme-femme, il y a aussi beaucoup d'autres distinctions et différences. Mais justement, de découvrir cette différence, non pas comme une menace, mais comme une condition de la communion, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça demande un vrai travail sur soi-même. Ça demande une vraie vie spirituelle. Parce que spontanément, c'est l'inverse. Spontanément, on va pointer du doigt ce qui ne va pas. Donc voilà, ces questions. Les questions liées au corps aussi, je me suis dit, ça peut être aussi des questions peuvent être difficiles. Je vais parler de l'accueil des enfants, que ce soit en trop ou en pas assez, ben voilà, ça peut être aussi difficile. Mais aussi tout ce qui est de l'ordre de votre relation intime, de votre relation sexuelle, qui fait partie aussi de votre propre vie matrimoniale, qui est un des poumons de votre vie matrimoniale. Mais on voit bien que c'est pas toujours simple, hein, malgré un peu l'étalage qu'on voit de sexualité, où il semblerait qu'il y ait la révolution sexuelle, etc. C'est pas pour ça que c'est simple. Et on voit bien que, au fond, le corps, j'ai marqué, le corps ne ment pas. Mais c'est vrai que le corps ne ment pas, parce que c'est, le corps dit quelque chose d'autre. Et il peut y avoir un doute qui rentre dans votre cœur et dans votre corps aussi, parce que vous sentez que le corps n'est pas l'unisson des sentiments que vous avez pour l'autre. Où vous attendriez plus de l'autre, en termes d'affection, en termes de relations intimes, en termes de tendresse. Et là aussi, c'est... voilà, on n'a pas le curseur au même endroit, hein, on ne met pas le curseur... il peut y avoir des moments, je me souviens, comme ça, ce couple, ben voilà, lui en grande difficulté professionnelle, ben plus il n'a plus de désir. Il n'a plus de désir de sa femme, etc. Il a... Bon, et ça pendant des mois, quoi. Il n'y arrive plus, quoi. Panne. Et donc, bon, ça ne peut pas être sans conséquence sur le couple, c'est évident. Ça peut pas... Du coup, je crois que c'est important de se dire aussi que de reprendre confiance dans votre corps et de reprendre confiance dans le corps de l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'amour matrimonial qui fait rayonner aussi tout l'amour matrimonial. Et je crois qu'on doit beaucoup à Jean-Paul II dans ce domaine-là, où il a médité sur la théologie du corps après beaucoup d'années de galères dans l'Église catholique ou une vision négative qui nous traîne encore aux savates de la sexualité et du corps. Eh bien, ce grand pape qui est Jean-Paul II a remis, au fond, la beauté du corps dans le plan de Dieu, et la beauté de la sexualité dans le plan de Dieu, et comme un lieu de rencontre avec Dieu, qui ne s'oppose pas à Dieu. Et donc, je pense que, voilà ce que je voulais vous partager cet après-midi. Il peut y avoir d'autres, je n'ai pas fait l'étalage de toutes les formes d'épreuves, hein, lié au corps aussi, c'est les questions de santé. Les questions de santé, c'est pas sans rapport. Santé des enfants, santé de l'un ou de l'autre, santé des parents. Là aussi, ça peut... santé, quand je parle de santé, la santé physique, mais il y a la santé psychique. Combien se découragent parfois certains doivent faire face à la dépression du conjoint ou à des moments dépressifs ou à des voilà des maladies qui se découvrent ou qui étaient latentes et qui ont à l'occasion de tel ou tel événement qui ont émergé. Et ça, je pense que c'est une vraie source de doute pour le couple. Parce qu'il se dit, mais au fond, mais est-ce qu'on va tenir toute la vie comme ça? Est-ce qu'on va... Oui, ce qui est un doute, et c'est là où on voit que ce n'est pas de Dieu, c'est qu'on concentre le temps. On concentre le temps, c'est ça qui nous fait douter. C'est-à-dire, on ne va pas passer toute la vie comme ça. Ce n'est pas toute la vie comme ça, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, puis aujourd'hui c'est 7 heures, puis l'heure d'après, puis etc. Et au fond, dans la tentation que nous donne le démon, etc., et qui nous fait, on voit comme un concentré de notre vie. Et on va pas durer toute, je ne peux pas durer toute la vie comme ça. Je ne peux pas être avec toi, je ne peux pas continuer comme ça toute la vie. Hein. Parfois, des moments d'exaspération, bon, ensuite on se reprend, etc. Puis, et on voit bien. Mais vous ne laissez pas voir par ça, parce que ça, c'est de l'ordre de la tentation. C'est clairement de l'ordre de la tentation spirituelle. Et donc, au contraire, c'est « donne-nous notre pain quotidien ». Donne-nous notre pain quotidien. C'est l'inverse. C'est au jour le jour. Chaque jour suffit sa peine. Et donc cet abandon à la providence de Dieu, au fond, et ce carpe diem chrétien, cette capacité de cueillir aussi dans votre vie, qui va faire chaque jour, ça va être votre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est pas simplement le pain, voilà, on a eu à table le pain quotidien de l'amour. Donne-nous notre pain quotidien de l'amour, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien de la confiance. Hein, ne laisse pas mourir de faim, ne nous laisse pas sans rien de ce point de vue-là. Et donc les découragements viennent justement, soit, comme je vous l'ai dit, on se met la barre trop haute et donc du coup on se décourage, etc., soit d'une réduction du temps que le tentateur nous tend un piège là et il faut savoir le déjouer. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On a un petit temps de... Ou vous-même voudriez rajouter ou...
Vous avez parlé de la fécondité. Je pense qu'il y a aussi un doute qui est plus important entre les deux, c'est les fausses couches.
Oui, complètement, oui. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est l'accueil de la difficulté dans oui, les fausses couches. Oui, il faut que je marche. Et voilà, bon. Encore une fois, on a le corps qu'on a et puis on n'a pas de. On y peut, mais c'est vrai qu'il y a, il y a quand même une grosse pression sur la femme de ce côté-là. C'est marrant, hein, parce que. Mais c'est, et le sentiment de ne pas être à la hauteur, quoi, le sentiment d'avoir fait une faute, comme je dis bien, merci pour ta question. Parce que c'est vraiment ça, c'est surtout un jeune couple, etc., après plusieurs échecs dans la vie pour concevoir, etc. Et. Ben voilà, on se dit, ben non, ben. On se dit, bah, trouve-toi une autre femme, ou on dit des trucs aberrants. Quoi. À la fin, on dit des trucs qu'on pense même pas, parce que. Et du coup, je pense que ça, vraiment, à trop, on le sait très bien, à trop, quand une fille se focalise trop sur cette question-là, ça ne l'aide pas, ça c'est clair. Mais en plus, je pense que c'est l'occasion aussi de se poser la question, mais quelle autre forme de fécondité nous attend? Est-ce qu'il y a d'autres formes de fécondité? Est-ce qu'il y a. Il n'y a pas qu'une fécondité pour le couple. Il n'y a pas que les enfants. La forme habituelle de fécondité pour un couple, c'est les enfants. Et on comprend combien ça peut être douloureux pour les couples qui, bon, bah, ça ne vient pas, etc. Ça paye du temps. Et puis tout le monde te pose, et alors, quand, pour quand, et tous des gens très bien intentionnés, etc., complètement à côté de leur pompe, et ils ne se rendent pas du tout compte de ce que ça peut vouloir dire. Hein, et donc, du coup, moi, je crois que. Là où je pense que ça peut être important, c'est justement le conjoint a un rôle très important dans le fait d'aider l'épouse à reprendre confiance. Vous êtes attaché à la personne de l'autre. Ça, c'est important. Vous êtes attaché pas aux qualités extérieures de l'autre ou à ce que pourrait vous donner l'autre. C'est à la personne de l'autre. C'est vraiment, c'est pas facile de découvrir les motifs qui poussent à aimer. et qui vous ont poussé à vous marier, parce que c'est, ça reste de l'ordre du mystère. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier? Mais je pense que du coup, on est recentré sur je suis attaché à l'autre en tant que tel, pas seulement qu'elle me donne des enfants, pas seulement qu'il me donne, pourquoi, ou qu'il ou elle me donne un niveau de vie, ou pas seulement que ceci, que cela, que ça, bon, mais c'est l'autre en tant que tel. Hein, c'est comme la maîtresse de Mussolini. Maîtresse de Mussolini, alors que les Américains arrivaient, etc., et que bon, lui-même était emprisonné et allait vers la mort, eh bien, on lui dit, écoutez, il y a une petite porte. Si vous voulez, ben, on vous envoie en Amérique latine, etc., une petite porte. Elle dit non. Je l'ai suivi dans la vie, je le suivrai dans la mort. Elle était attachée à sa personne, à lui. Elle avait un amour, puis une femme, quand ça aime, ça aime. Hein, et donc, elle était attachée à lui. Donc, ils sont morts tous les deux. Donc, mais je trouve ça assez beau, parce que, quelque part, c'est le signe, voilà. C'est pas parce que c'était le duché, et que j'étais la maîtresse, que j'étais ceci, que j'avais des avantages, que voilà, je l'aimais. Non, c'est parce que c'était cette personne-là, et que j'avais un vrai attachement. Et c'est bien souvent dans les épreuves qu'on mesure l'attachement l'un à l'autre. C'est bien souvent là, parce qu'on a un vrai, et qu'on se redit cet attachement. C'est important de se le redire. D'autres questions? Oui.
Est-ce que l'éducation des enfants
peut être... Oui, bien sûr. Les enfants. L'éducation, oui. La venue du premier enfant, je vais peut-être zapper. Non, je ne l'ai pas mis. C'est l'accueil de l'enfant, oui. Oui. Non, d'abord, ça peut être une épreuve. Pourquoi? Parce que forcément, l'épouse est moins attentive à monsieur, parce que quand même plus concentrée sur le baby qui arrive, et surtout que bon, ça occupe, c'est petit, mais ça occupe beaucoup d'espace, et beaucoup d'espace aussi sonore. Et donc, du coup, l'accueil de l'enfant, d'où l'importance d'être attentif, c'est que, bien sûr qu'il y a un moment fusionnel, il y a un aspect fusionnel, mère-enfant, etc., ce qui est assez normal. Mais il ne faut pas que l'accueil de l'enfant vous décourage, vous fasse mettre le curseur, ben voilà, on a eu un temps de vie de couple, maintenant on est père et mère. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sera pas du tout juste. Vous êtes père et mère parce que vous êtes couple. Et parce que c'est encore une fois, c'est cet accueil de l'enfant qui va faire rejaillir cette fécondité, qui rejaillit jusque dans l'enfant. Alors ça, c'est le fait d'accueillir. Donc, il faut faire attention, être attention de ne pas... surtout pour les mamans, ben voilà, de pas manquer d'attention à vos conjoints, à vos époux. Maintenant, dans l'éducation des enfants, alors là, c'est sûr que là, ça peut être chaud, parce que forcément, donc on peut se décourager, parce qu'on se dit, mais on est tellement différents l'un de l'autre, etc. Et parce que vous reprenez. Et dites-moi si c'est pas vrai, à dire des choses que vos parents ou vos propres mères ont dites. Mais oui, mais vous tapez la tête contre la mur, non, surtout pas ça, mais vous vous reprenez à rejouer, au fond, ce qu'ont dit vos propres parents et ce qu'ont fait vos propres parents avec soi. Donc, ce qui veut dire aussi d'en prendre conscience. Et je crois que ça peut être un vrai lieu de combat et de découragement, parce que justement, on fait la comparaison, là aussi, où les parents, les grands-parents font la comparaison, ou vous-même, ou d'autres, entre les enfants d'un tel, les enfants de l'autre, l'éducation qu'il a reçue, l'éducation qu'il n'a pas reçue, etc., etc. Et je pense que c'est... Voilà, d'où l'importance de week-ends comme ça, et de temps de couple privilégié, parce que justement, ça vous remet sur ce qui est l'essentiel de la famille, quoi, hein, de votre lien matrimonial. Bah oui, je crois que c'est bien de se mettre d'accord, de dire voilà, qu'est-ce qui te paraît important de donner, parce qu'on met pas le curseur au même endroit en termes d'exigence, par exemple, en termes de politesse, en termes de discipline, en termes de, etc., etc., parce qu'on a eu des éducations qui ont été différentes. Bah oui, c'est sûr que à un moment donné, faut quand même se mettre d'accord, parce que ça peut être une source de tension qui, ça c'est sûr, oui. Ça c'est clair. Vous avez d'autres questions ou des choses que vous aimeriez apporter, justement, ces questions d'épreuves ou de...
Il y a juste il y a des mots que j'ai pas tellement entendus qui finalement sont sous-entendus. c'est tout ce qui est vérité, démarche de connaissance de l'autre.
Oui.
D'être en vérité par rapport à soi-même, pour pouvoir être en vérité par rapport à l'autre, et pouvoir connaître l'autre. Parce que si on ne se connaît pas soi-même,
oui,
ça va fausser le dialogue avec l'autre, et on va aussi ne pas réussir à connaître l'autre. Et du coup,
oui,
l'amour va toujours être biaisé.
Oui.
Et tout ce qu'on vient de dire, l'éducation, il y a aussi la question de se connaître soi-même, d'être en paix par rapport à son histoire, pour être capable de l'assumer par rapport à l'autre.
Ça, c'est tout à fait vrai. C'est ça. Mais maintenant, c'est vrai le fait d'être en vérité, mais au fond, c'est sous-jacent à tout ce qui a été dit là. Mais il faut bien voir que c'est vraiment un cheminement. Et parfois, c'est la vie de couple qui vient réveiller des vieilles blessures, des choses qu'on n'a pas forcément acceptées dans sa propre vie. Et justement, on pensait être en vérité, on pensait avoir résolu la question, et puis voilà, on se réheurte aux mêmes difficultés ou à d'autres. Mais c'est vrai que je pense que ça résume un peu tout ce qui a été dit, c'est cette capacité. Mais être en vérité, oui, mais ça veut dire aussi de. C'est vraiment un long chemin d'être en vérité avec soi-même. C'est au fond accueillir aussi sa propre fragilité et accueillir sa propre, quelque part, ses propres incapacités aussi. C'est s'accueillir comme un pauvre et accueillir l'autre comme un pauvre. Alors j'étais dans un aspect plus pratique, mais je pense que derrière ça, c'est. Je l'ai un petit peu évoqué quand j'ai dit le fait de le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Mais c'est le chemin de toute une vie. Parce qu'à travers les événements, parfois, il y a des choses que l'on redécouvre. Et voilà, je pense que c'est important de découvrir justement que il y a des choses peut-être qu'on ne pourra pas changer dans notre comportement. Bon, ben voilà. Du coup, c'est redire oui aussi à cette personne-là que vous avez à vos côtés, que vous aviez peut-être pas vu de cette manière-là quand vous vous êtes marié. Ah oui, mais j'entends parfois, oui, mais je ne me suis pas marié avec cet homme-là. Ah oui, non, mais c'est bien, c'est monsieur Intel, mais c'était pas pareil. En fait, il était pareil, peut-être vous n'étiez pas rendu compte, ou alors bon, mais je pense que le fait d'être en vérité, ça va permettre au couple, c'est sûr, d'être. Mais j'ai envie de dire, c'est. On dit ça, en même temps, on ne dit rien. C'est-à-dire qu'on. Oui, mais comment on fait, quoi? C'est un but, je vois ça comme un but à atteindre, mais. D'autres choses, vous voulez dire, avant qu'on aille rajouter ou témoigner? Bien, je vous propose de prendre un petit chant.